Chapitre 30.
Yevgeny Soudkovsky naît en 1928. Ses parents, originaires de Russie, ont quitté leur pays 2 ans avant la naissance de leur fils pour s'établir en France. En 1927, sa mère, formée par les acrobates de Riga, en Lettonie, se fait engager par le Circus Elliott. Le clou du spectacle est le numéro final de trapèze, où la mère de Yevgeny est la première femme à effectuer un double saut périlleux, rattrapé par son partenaire. Le père travaille comme manutentionnaire. Il s'absente régulièrement dans les villes où le cirque va se rendre pour coller les affiches de 2 mètres sur 3 sur lesquelles on voit le beau visage de sa femme. Ce sont ces absences répétées, la route en solitaire qui sème le doute dans son esprit, instille la jalousie. Pendant qu'il œuvre comme manutentionnaire, elle est accrochée à un autre homme sous les applaudissements. Il voit bien le regard émerveillé des spectateurs. Que fait-elle quand il n'est pas là? Un mois avant d'accoucher, elle voltige encore dans les airs, le corps comprimé dans un corset, et reprend le trapèze quand Yevgeny a 15 jours. Le bébé passe ses journées dans les bras de sa mère ou dans son landau sur un coin de la piste. À peine ouvre-t-il les yeux que le nourrisson voit déjà les paysages défiler et sa mère voler dans des tenues scintillantes. Un tout petit, allaité à la demande, couvert de baisers, bercé de chansons que sa maman lui fredonne. Jamais on ne l'entend pleurer, sauf lorsque son père pique des colères terribles, jusqu'à battre sa femme. Yevgeny fait ses premiers pas sur la sciure, en regardant sa mère planer dans le ciel du chapiteau. Il tend les bras vers elle pour qu'elle descende le chercher. Quand elle s'élance de la plateforme au-dessus du filet, il se la représente comme un oiseau. À 3 ans, il l'appelle « maman mariée » parce qu'elle ne porte que du blanc en mousseline de soie. À chaque fois qu'elle s'approche de lui, ses petites mains attrapent son sein pour boire le lait maternel et il ferme les yeux de félicité. Yevgeny grandit dans la volupté d'une mer aérienne à l'odeur d'eau de fleurs dont elle se frictionne chaque jour le corps. À 3 ans, il sait jongler et tenir en équilibre sur un fil tendu. 6 mois plus tard, elle lui enseigne la voltige, lui apprend à se propulser d'un trapèze à un autre, des trapèzes qu'elle a pris soin de descendre à 1 mètre du sol. Une vie rêvée pour un enfant, en dehors de sa brute de père, qui ne pose jamais les yeux sur lui. Une vie jumelée à celle de sa mère. Ils respirent ensemble. Le jour de ses 4 ans, Yevgeny réalise sa première figure au-dessus du filet, un salto avant. Il voit dans ses yeux qu'elle est émerveillée. Yevgeny n'a qu'un seul rêve, voltiger avec elle. Mais soudain, sa vie bascule. Son père cogne trop fort. Et sa mère, apathique et couverte d'hématomes, doit rester au lit. Yevgeny reste allongé près d'elle. Son père se dispute si violemment avec les propriétaires du cirque qu'il impose à sa femme de les quitter. Il s'installe dans un 2 pièces insalubre, à caluire et cuire. Fini les paysages qui défilent, fini de nourrir les éléphants, adieu la musique, les clowns, l'odeur de paille et de fumier. Son père travaille de nuit à l'usine et sa mère n'a plus le droit de sortir. Il l'accompagne partout, même pour faire les courses, laissant l'enfant seul et démuni dans l'appartement, planté devant la porte, le souffle coupé jusqu'à leur retour. Il se précipite alors contre les jambes de sa mère. Jamais elle ne fait un pas dans l'appartement sans l'avoir contre elle. Pour passer le temps, ils s'entraînent ensemble, font des exercices de portée dans la minuscule cuisine, se cognant, se faisant des bleus et piquant des fous rires. Mais ce bonheur factice est éphémère. L'enfant voit son bel oiseau de paradis cloué au sol se déliter, être humilié. Se taire. Obéissante comme un animal dompté, elle ne cherche pas à s'enfuir ou ne trouve pas la porte de sa cage. Avant, elle s'offrait aux spectateurs. Désormais, Yevgeny l'a pour lui seul. Les émotions se chamaillent dans son jeune esprit. Il sent qu'elle n'est plus heureuse, mais il est rassuré de la savoir recluse avec lui, uniquement dédiée à sa personne. Son père n'est jamais là. Il se lève à 11h, traîne au bistrot jusqu'à 15h, rentre pour manger et faire une sieste avinée, avant d'avaler un morceau et de partir travailler. Il ne revient qu'à 5h du matin. Pour égayer leur morne quotidien, sa mère invente des histoires de cirque, des histoires de funambules, de trapézistes et d'acrobates, sans jamais se départir de sa douceur. Un jour, lui promet-elle, ils présenteront des spectacles insensés. Pourtant, pense le petit garçon, partir, ce serait être de nouveau séparé. Elle retournerait aux autres et ne serait plus à moi. Je n'aurais plus ses mains, sa souplesse, sa beauté et son ventre, rien que pour moi. Le soir, Yevgeny se colle contre sa mère, se lovant dans sa chaleur et son odeur. Au milieu de la nuit, elle le glisse dans son petit lit. Puis le père prend la place encore chaude de l'enfant, qui n'a pas le droit d'entrer dans la chambre conjugale quand il y a du bruit. Un matin, alors que le père dort près d'elle, le petit contourne le lit pour se glisser sous les draps. Sa mère ne bouge pas. L'enfant lui prend la main et pleure en silence. Il repense à la veille, au deuxième chocolat chaud qu'elle a refusé de lui préparer. Il s'est mis dans une rage folle, l'a frappé à coups de poing, il a cogné ses jambes, ses fesses et ses reins. Effarée, elle l'a regardé, avant de se mettre à hurler en russe, elle qui s'adressait toujours à lui en français. Il n'a pas compris tous ces mots, sauf qu'user de violence était la pire chose qu'on puisse faire dans la vie. Il s'est excusé. « pardon maman », parce qu'elle pleurait beaucoup. C'était la première fois qu'il voyait ses larmes couler par sa faute. « Pardon, maman. » Ce matin, le corps de sa mère est froid. Il écoute le souffle de son père qui dort paisiblement, mais celui de sa mère s'est envolé. Elle a les yeux fermés, des cernes noires, le visage blême, presque bleu, mais pas comme le ciel. Un bleu terrifiant. Du gel, comme la peau lorsqu'elle a froid. Elle est partie toute seule, sans lui, parce qu'il a été un vilain garçon. Il y a des taches brunes autour de son cou. Il sera le seul à les remarquer. Quand son père se réveille, il ne paraît pas surpris de sa mort et l'observe d'un air vaguement contrarié. Que va-t-il bien pouvoir faire d'elle ? Yevgeny repense aux mots de sa mère. « Tu sais, mon amour, ton père, quand je l'ai rencontré, il n'était pas comme ça. » « Pourquoi devient-on comme ça ?»« Quand je l'ai rencontré, il était drôle, gentil, il chantait tout le temps. On s'est sauvés tous les deux pour être ensemble parce que mes parents ne voulaient pas qu'on se marie. Ils le trouvaient trop immature. » Le père enfile un pull à col roulé et un pantalon à la morte, avant d'appeler un médecin pressé de conclure à une mort médicamenteuse. Les marques de strangulation ne seront pas mentionnées sur le certificat de décès. Yevgeny a 4 ans et 6 mois lorsque sa vie s'arrête. Il est persuadé que sa mère est partie à cause de lui. Une rupture indicible. Son âme se perd sous la pression du froid qui se répand en lui comme du curare. Ils avaient un cœur pour deux. Elle l'a emporté avec elle. Il entend un mot qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas. Suicide. Une voisine murmure. Elle aurait pu penser au petit quand même. Les voisins se cotisent pour offrir une cérémonie digne de ce nom à la jolie dame du 5e qu'on voyait si peu. Le cercueil est en sapin. Quand le couvercle se ferme sur le visage de sa mère, l'enfant sent une pluie d'acide lui ronger le corps jusqu'à perdre connaissance. On vient de le déchirer au couteau, comme on sépare deux entités collées l'une à l'autre. Il émerge sous les gifles de son père, sous l'œil effaré du croque-mort. « Père, pourquoi ça s'appelle un croque-mort ?»«
Parce qu'il bouffe les morts, abruti !»
Il n'y aura pas de plaque en marbre ni de stèle. On la met en terre dans un coin du cimetière de Caluire, loin des autres caveaux, loin des autres familles dont les portraits brillent au soleil. Seul un cercle de roses blanches en tissu est déposé contre la croix en bois où est gravé son nom, Lyuba Rozov, épouse Soutkovski. La croix trace une ombre sur la terre fraîchement retournée. L'enfant, qui ne sait pas lire, assiste à l'enterrement sans que personne lui tienne la main. À la fin du sermon, dont il n'a pas compris un traître mot, une dame lui frôle l'épaule affectueusement. Il la repousse violemment. « Pauvre petit, c'est le chagrin. » Le père renifle, mais ne pleure pas. « Pauvre homme. » Une fois de retour dans l'appartement, il reporte les coups qu'il donnait à sa femme sur l'enfant. Yevgeny est presque soulagé du sort qu'on lui réserve. Maintenant, sa mère n'aura plus mal. C'est lui qui prendra tout. Pardon, maman. Rapidement, le père vend les talons de son garçon au propriétaire du cirque Alcaraz et Frères. Yevgeny devient l'un des plus jeunes funambules de France. Il travaille sans relâche sur des barres parallèles, du matin au soir. De 1934 à 1938, on vient de loin pour admirer le jeune garçon jongler et tenir en équilibre sur un ballon, un fil, un cheval. Mais jamais il ne sourit. Et il ne se retourne que lorsqu'on l'appelle Soudoro. Yevgeny Soudkovski, l'enfant de Lyuba Rozov, n'existe plus. La guerre éclate. Le cirque Alcaraz se déplace à côté d'Albertville, chez des tziganes qui exploitent des terres. Ils possèdent quelques lopins et une belle basse-cour. Ils vivent tous du marché noir, ne font plus de représentation. Dans cette ferme, Yevgeny apprend à lire et à écrire grâce à l'ancêtre. C'est ainsi qu'on appelle une ancienne préceptrice qui s'est enfuie avec un forain. Elle lui fait l'école chaque matin pendant 7 ans, mais lui enseigne uniquement le français, lecture, grammaire, conjugaison. Pas de cours d'histoire ni de mathématiques. Pendant ces années de guerre, Yevgeny apprend le lancer de couteau. D'abord sur cible, à 1 mètre, puis 2, puis 3. Il acquiert la persévérance et la précision. Après des années de pratique, il décide de s'entraîner sur une cible humaine. Ce sera Leïla, la petite fille de l'ancêtre, qui lui fait confiance. Elle s'est amourachée de lui. Yevgeny tire autour d'elle en respectant les 40 cm de sécurité. Ils préparent ensemble un numéro qu'ils espèrent présenter quand la guerre sera terminée. Ils peaufinent l'exercice, attachant Leïla à une roue tournante. Leïla a 3 ans de plus que lui et n'a peur de rien. Après le couteau, elle veut lui enseigner l'amour. Il accepte, mais instaure une condition: ne jamais le toucher. Elle garde les mains attachées dans le dos et ne lui donne ni baiser ni caresse. Au début de leur étrange relation, Leïla s'en amuse. Elle aime ce garçon sauvage et mystérieux. Mais au bout de plusieurs mois, elle finit par l'embrasser dans les cheveux. Il la gifle. Recommence une fois et tu meurs d'un coup de couteau dans le cœur. Choquée par sa violence, Leïla le rejette et le quitte sur le champ. On ne se voit plus, ni au couteau, ni dans un lit. C'est fini entre nous. Il devient fou et la roue de coups. On n'abandonne pas Soudoro. À la fin de la guerre, son père lui annonce qu'il est propriétaire du cirque Alcaraz. Il possède des papiers qui le prouvent. Comment a-t-il fait? Yevgeny l'ignore. Il a 18 ans et rencontre Marie Roman. Son père meurt le 20 janvier 1946, le jour où le général de Gaulle démissionne du gouvernement. Une chute mortelle depuis un des promontoires du chapiteau. Yevgeny ne le fait pas inhumer à Caluire, mais jeté dans une fosse commune, au cimetière d'Albertville. Rendez-vous en enfer, vieil assassin. En 1950, il fait ériger un tombeau en marbre blanc pour sa mère. Du blanc, comme les tenues qu'elle portait. Il paye en billets de banque, une fortune. Il exige qu'on grave en lettres d'or son nom, Lyuba Rozov. Quand on lui demande ce qu'il souhaite choisir comme épitaphe, il ne sait quoi répondre. On lui en présente plusieurs, qu'il trouve ridicules. Il finit par la rédiger lui-même, en russe, pour que personne ne comprenne. À ma mère trapéziste, qu'elle m'emporte avec elle.